Vous écoutez RTL.
Jean-Pierre Guénot, vous êtes notre prochain invité dans l'émission. On va parler de l'histoire du stylo. Cette relation d'un écrivain avec son stylo, c'est essentiel.
Elle est essentielle. Le stylo, c'est le sismographe de l'âme, un petit peu comme l'écriture.
Et ben voilà, on va parler de l'histoire du stylo avec vous.
RTL, première radio de France. RTL.
Vendez-moi ce stylo.
C'est un stylo super.
Vendez-moi ce stylo.
C'est un joli stylo.
Vendez-moi ce stylo bille.
Tu veux que je vende ce stylo de merde?
Y a pas plus fort que ce gars.
Ce stylo.
Il vous vend n'importe quoi.
Sois sympa, signe-moi un autographe sur ta serviette, s'il te plaît.
J'ai pas de stylo, moi.
Exactement, l'offre et la demande, mon vieux.
Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Là, il a créé le besoin.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Extrait du Loup de Wall Street, signé Martin Scorsese avec DiCaprio, évidemment, pour lancer cette séquence de la curiosité consacrée à l'histoire du stylo. Vendez-moi ce stylo, c'est un exercice de communication, de prise de parole publique. On est avec l'écrivain Jean-Pierre Guénot pour découvrir cette histoire. Jean-Pierre Guénot, on va remonter le plus loin possible. Comment écrivaient les... C'est quoi le point de départ de l'écriture humaine?
D'abord, c'est une épopée qui dure 5 millions d'années. L'homme, entre son apparition sur Terre et le moment où il a commencé à écrire, a mis 5 millions d'années. Quelle conquête! Quand vous pensez qu'aux États-Unis, il y a des gens qui veulent supprimer l'apprentissage de l'écriture manuscrite à l'école, c'est un peu barbare et effrayant. Alors, tout commence... Les historiens disent 5-6 000 ans avant Jésus-Christ. Les préhistoriens disent mettre un zéro de plus. Donc il y a une controverse. Pour les historiens, l'écriture commence avec l'histoire. Les préhistoriens sont beaucoup plus modestes, plus ils travaillent, plus ils sont obligés de reconnaître qu'ils font reculer les limites de la connaissance et qu'ils se sont trompés.
Alors si on dit 5-6 000 ans, on va être en Égypte.
Oui,
on va utiliser quel type de...
Bien le roseau, les Égyptiens. Et puis apparaît beaucoup plus tôt que dans nos vies quotidiennes la plume métallique. Qui peut être en cuivre chez les Égyptiens, qui peut être en or au Moyen-Âge ou dans d'autres matières chez les Romains.
Avant la plume d'oie, avant la...
Quasiment, la plume d'oie. Oui, mais alors de façon un peu sporadique. C'est vraiment la plume d'oie qui va arriver, quelque chose comme le 6e siècle après Jésus-Christ, avec des traitements, parce que la plume, il faut la préparer, il faut la prêter, il faut la...
Il faut la tailler.
Il faut la tailler. Et le mot peine anglais vient de peine, la plume, le mot français, le mot latin.
Et comment la plume se transforme en métal? Comment on obtient la plume métallique? On est à quelle époque?
Le problème de la plume, c'est qu'il faut la tailler.
Ouais. Hein.
Alors, la plume métallique apparaît très tôt, mais c'est au 18e et au 19e siècle qu'elle s'impose. Parce qu'évidemment, tout le problème, c'est l'adduction de l'encre dans la plume, en fin de compte.
Hein. C'est ce que j'ai...
Et avec la plume d'oie, c'est un peu plus compliqué. Puis, il faut la tailler, elle est fragile. La plume métallique est moins douce, mais plus facile à domestiquer.
Qui aura le premier l'idée de mettre l'encre directement dans la plume? En gros, qui a inventé le stylo? Évidemment, la question, elle est simple. Mais la réponse se nourrit de controverses, et c'est ça qui est très intéressant. Léonard de Vinci, par exemple, quelle trace il laisse dans cette invention?
C'est affairé, puisque dans le Codex Atlanticus, 1478-1500 et des poussières, vous avez un schéma de stylo à plume. Il a tout inventé, Léonard de Vinci.
Tel qu'on le connaît aujourd'hui, il ressemble au stylo à plume qu'on connaît aujourd'hui?
Ah oui, c'est un stylo à réservoir. C'est très étonnant, il donne même une consigne en écrivant à l'envers. Il faut décoder Vinci dans un miroir quand on lit ses textes pour indiquer le bon angle d'attaque. Vous savez qu'il a tout inventé. Le château de Romorantin qu'il était en train de construire quand il est mort, il a eu le temps de dessiner les fondations pour François Ier. Il l'avait parsemé, contrairement à Versailles beaucoup plus tard, de toilettes à porte coulissante. Vinci a inventé la sanisette.
Et c'est, alors pas la sanisette, mais ce premier stylo dessiné et inventé dans le codex de Léonard de Vinci, on le trouve dans cette hors-série du Monde, un amour de stylo que vous avez supervisé avec Jean-Claude Arata. Jean-Pierre Guénot, on va avancer un peu dans le temps, puisque dans ce hors-série, il y a un peu toutes les tentatives. Vous dites que c'est en 1883 et en Amérique que le premier vrai stylo efficace a été créé. Par quel inventeur?
Eh bien, il y a plein de gens qui pensaient à ça. Il y a les encyclopédistes, Diderot d'Alembert, il y a des gens comme Jean Delarue ou encore Jean-Baptiste Mallat, il y a des controverses. Mais le premier qui est arrivé à résoudre le problème du cheminement de l'encre vers la plume de façon fluide, l'inventeur du premier conduit fiable de stylo à plume, c'est Lewis Edson Waterman en 1883. Voilà, c'était un assureur. Il en avait assez de faire des pâtés sur des projets de contrat qu'il signait avec ses clients. Et un jour, il s'est retiré dans son garage, il a bricolé ses premiers stylos. Ensuite, sa firme a pris son essor. Alors lui, c'était un génie de la publicité et du marketing. Vous ne l'auriez pas renié sur les antennes d'RTL parce qu'il avait le génie du message qui n'est pas une prédation, le bon message.
Bien sûr, le bon message.
C'est celui qui vous apporte une belle information.
Vous avez en tête comment il le vendait, son stylo Waterman?
Ah ben, il avait déjà des concurrents, Swift et d'autres marques. Ouais. Donc, il était très pragmatique et il remettait le stylo dans son contexte, qui est celui de l'écriture et des rapports humains, des fêtes. Regardez, là, on va vivre Noël et la Saint-Sylvestre. Mmh. Ben, c'est le moment de s'écrire. Si la communication n'est que virtuelle, elle est un peu triste. Et puis, qu'est-ce qui vous reste des années et des années? Moi, j'imagine un groupe d'amoureux qui évoquent leurs jeunes années. Et ben, il y en a 3 sur 4 qui disent « j'ai plus rien ». C'était des SMS, c'était des courriels, ils sont tous effacés. L'autre sort sa lettre en disant « ben, moi, j'avais les deux ». Et ce qui était sur papier, c'est pas effacé. Et là, j'ai le parfum de l'expéditrice, j'ai une trace de rouge à lèvres, des choses concrètes.
Plaidoyer pour le stylo et pour le courrier. Waterman, l'assureur, va donc devenir businessman. Après lui, un télégraphiste et un bijoutier seront les autres pionniers du stylo. On vous les présente dans un court instant sur RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est l'histoire du stylo que l'on découvre depuis tout à l'heure sur RTL avec notre invité Jean-Pierre Guénot. Depuis tout à l'heure, vous nous avez appris que Léonard de Vinci avait dessiné le plan de l'ancêtre du stylo. Et c'est fou ce qui ressemble à notre stylo d'aujourd'hui. C'était quand même il y a plus de 5 siècles. Mais que c'était un assureur, Lewis Waterman, qui avait inventé en 1883 le premier stylo à plume vraiment fiable, celui qui tâche pas, celui qui permet d'écrire pendant des heures. Et voici un autre personnage qui entre dans l'histoire de cette invention du stylo, George Parker. Quel était son métier?
C'est un télégraphiste, c'est un homme de communication, c'est un mobile, donc le stylo on en a besoin quand on est mobile. Alors lui, il a eu l'idée géniale du Lucky Curve.
C'est quoi
c'est
ça?
C'est un conduit coudé. Hein, le conduit de la chance, qui fait que l'encre ne revient pas en arrière. Et alors cet homme a breveté des dizaines de choses. Il a inventé le fameux Parker 51, il a inventé le Duofold, il a inventé
c'est
le
quoi,
stylo en titane. Le Duofold, c'était un modèle dont on parlera tout à l'heure avec l'écrivain Colette. Il y a eu des modèles des années 20, des années 30. Quand on regarde les grands stylos mythiques, il y a pas mal de Parker, parce que cet homme était très très inventif, et il a créé un Parker en titane beaucoup plus tard dans les années 70, qui a été un échec parce qu'on travaillait des matières nées dans l'espace, qui étaient tellement fragiles qu'il y avait beaucoup de gâches quand on fabriquait des stylos.
Ouais, on va aussi effectivement raconter, Jean-Pierre Guénot, l'histoire de certains écrivains ou grands esprits de notre temps et de leur relation particulière avec leur stylo. Donc on vient de citer Waterman, Parker, voilà, c'est des marques qui ont survécu évidemment à ces inventions. Parmi ces pionniers américains de l'histoire du stylo, il y a aussi un certain Schaeffer. Ça, c'est une marque qu'on connaît moins.
Un peu moins. Enfin, elle est très connue aux États-Unis. Schaeffer, c'est un bijoutier. Donc là, c'est logique aussi, puisque les premiers stylos sont en ébonite, et puis petit à petit en matière plastique. Puis pour varier les choses, on les habille en filigré, c'est-à-dire avec des métaux précieux. Donc les bijoutiers ont leur mot à dire. L'épopée du stylo, c'est une épopée technologique, esthétique, commerciale, publicitaire, c'est une épopée du design. Ça raconte tout le stylo dans notre vie quotidienne.
C'est une épopée américaine, Jean-Pierre Guénot?
C'est une épopée américaine au départ. Beaucoup des inventeurs qui ont réussi parmi les premiers, c'est les 3 mousquetaires
qu'on
a cités.
Et en France, alors, on a qui?
En France,
quelle
marque française? D'abord, il y a eu des périodes de gloire. La grande période de Waterman, c'est quand elle est reprise par les Français, par Francine Gomez. Malheureusement, ça nous a échappé depuis. Mais enfin, on a fait de grandes choses à ce moment-là. Entre autres, ce sont les Français qui ont repris la cartouche. La cartouche avait été inventée par Eagle, une marque américaine, en 1890. Mm-hmm. Waterman lance des cartouches de verre en 36, des cartouches de verre. Et la fameuse cartouche en plastique, celle dont nous sommes familiers aujourd'hui, c'est 54, c'est les Français. C'est Waterman France. Les Américains laissent faire les Français parce qu'ils savent qu'ils innovent, qu'ils ont un marché où on aime les choses nouvelles.
Mais c'est quoi, Jean-Pierre Guénot, les marques françaises de stylos, ces marques disparues, avec quoi comme...
Il y a eu des marques comme Mala, par exemple, comme Mala. Bayard,
bien sûr.
Qui sont des grandes marques qui ont beaucoup innové, Stylomine. Le problème de ces marques, c'est que quand le bille est arrivé, faisant concurrence aux plumes.
À quelle époque?
Dans les années 60, ouais. Au début des années 60. Ça a été inventé beaucoup plus tôt, mais c'est toujours pareil. Les inventeurs arrivent trop tôt, et puis il y a un certain temps de latence avant l'apparition des choses. Et là, bien, il faut toujours opter pour la formule fromage et dessert. C'est comme pour le pixel et le papier, vous verrez, ça sera les deux. Quand on rejette l'un des deux, on fait une erreur. Et les marques américaines ont su intégrer le bic, offrir des offres qui aujourd'hui sont multiples, plumes, rollers, billes. Les Français font de la résistance, souvent. Et là, ils ont fait de la résistance un peu trop. Et puis les guerres aussi ont fait du mal. L'occupation a fait du mal, parce que beaucoup de marques étaient anglaises. Donc on regardait, sous Pétain, on regardait l'Angleterre bizarrement. Et les Américains, que dire, ils ont débarqué. Donc, en les attendant, on a boudé leur stylo.
Sylvain Tesson nous a parlé de l'affection qu'il avait pour son stylo Parker. Il écrit ses aventures avec ce stylo-là, mais il y a d'autres couples, d'autres duos comme ça, Colette et son stylo, Saint-Ex et son stylo, et Anne Frank et son stylo. À tout de suite, les curieux.
RTL.
RTL, c'est
des découvertes,
mais aussi des standards.
Et des nouveautés. On aime la musique sur RTL.
En relisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait deux.
RTL.
C'est écrit.
Je vous rappelle le titre principal de... Excusez-moi, Chantal, vous avez un Tampax sur l'oreille.
Qu'est-ce que j'ai fait de mon stylo, moi?
Je sais pas.
Quelle curiosité, t'as un vilain défaut.
Écrire comme en parler non cru.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Il y avait Gainsbourg et quelques autres, et aussi Alain Chabat, Chantal Lobby.
Bah ça arrive de perdre son stylo,
de se tromper. Un extrait du JTN, un grand moment de l'époque, du canal de la grande époque. On est avec l'écrivain Jean-Pierre Guénaud pour raconter l'histoire du stylo. Jean-Pierre Guénaud, vous nous avez fait découvrir les brevets, ces améliorations constantes, ces inventeurs qui ont créé des marques. On va maintenant consacrer la dernière partie de notre émission à quelques écrivains célèbres. Colette, par exemple. Alors,
Colette,
ce stylo avec lequel elle écrivait.
Colette était très moderne. Elle avait un papier bleu et puis elle adorait la... Elle a préempté un stylo Parker Duofold mandarin jaune. Dans les années 20, on aimait beaucoup la Chine. Parker a réalisé un stylo jaune quasiment fluo. Devenu très rare maintenant parce que c'était un four total, c'était trop moderne.
C'est pas vendu.
Le fluo, c'est venu beaucoup plus tard.
Les années 80, il n'y en a
pas avoir raison.
Colette aimait les stylos phalliques, les gros stylos. Hein, elle n'avait que des gros stylos. Et ce stylo est mythique, on la voit à la fin de sa vie dans l'appartement du Palais Royal. Elle l'écrivait couchée sur son joli papier bleu avec son fameux, il y a une de Paris Match avec son fameux mandarin jaune. Voilà. Alors ce mandarin, il a été réédité. Maintenant, les marques font des séries limitées. Montblanc est la plus douée. Et Montblanc vient de rendre un hommage à Saint-Exupéry.
Donc Saint-Ex écrivait avec un Montblanc uniquement, ou est-ce qu'il y avait des infidélités
quand même? Non, tous avaient plusieurs stylos.
D'accord.
Saint-Ex avait des Parker, des Stylomines, des gros stylos aussi, des Montblancs. Hein, c'est une partie de ses descendants a gardé quelques-uns de ses stylos, c'est assez fascinant. Et c'est en pensant à lui que récemment, Montblanc a fait une réédition Saint-Exupéry qui s'est arrachée tout de suite parce que c'est mythique, c'est totalement mythique.
Jean-Pierre Guénaud, vous avez envie de nous faire partager un moment très fort sur l'antenne d'RTL dans la curiosité. Anne Frank et son stylo, le stylo avec lequel elle écrit son journal.
Mais dans son journal, dont vous savez qu'il est écrit à Kitty, son amie imaginaire, on trouve une ode à son stylo datée, ça s'invente pas, du 11 novembre 43. Mon stylo a toujours été pour moi une chose très précieuse, je l'ai beaucoup apprécié, surtout à cause de sa grosse plume. C'était un stylo Montblanc. J'ai reçu lorsque j'avais 9 ans, il est arrivé enveloppé d'ouate dans un petit colis postal avec la mention « échantillon sans valeur ». Il venait d'Aix-la-Chapelle, d'où me l'envoyait grand-mère, ma bonne fée. Le glorieux stylo blotti dans son étui de cuir rouge faisait l'admiration de toutes mes amies. À l'âge de 10 ans, on m'a permis de l'emporter à l'école et l'institutrice consentit à ce que je m'en serve. À 13 ans, le stylo m'a suivi. Depuis lors, il a galopé comme un pur sang sur mon journal et sur mes cahiers. Alors ça, c'est la première mention du stylo. Seulement, il se passe quelque chose de terrible. Elle est de corvée dans sa planque, Anne Frank. Et un jour où elle épluche des légumes, elle évacue, elle oublie le stylo parmi les légumes, et il va être évacué, le stylo, et incinéré avec les épluchures, parce qu'on ne gaspille rien. À l'époque, tout sert à alimenter en énergie. Et là, elle reprend son journal, et elle dit « Il me reste une consolation. Mon stylo a été incinéré, et non enterrée, j'en espère autant pour moi. Elle a malheureusement été exaucée, mais pas de la meilleure manière qui soit. Voilà le passage d'Anne Frank sur son stylo, qui est très émouvant et qui passe souvent inaperçu, tellement son journal est abondant. Voilà, alors pour égayer les choses, je peux vous dire qu'avec Le Monde et le stylographe, on organise une opération qui s'appelle Soliplume. On encourage les gens à aller, il faut qu'ils regardent sur stylographe.com, à aller dans les boutiques des détaillants, voir les beaux stylos. Et là, s'ils rapportent leur vieux stylo, plutôt que de les jeter, ceux pour lesquels ils ont encore un peu d'affection, eh bien, on en fera profiter des enfants défavorisés. Et puis, les commerçants leur feront des réductions sur des nouveaux stylos, quoi, pour les inciter à donner, à être généreux, à se tourner vers
eux. Je suis très contente parce que je cherchais un destin à mon stylo plume qui m'a permis de passer le bac. Je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps. Et je me dis, qu'est-ce que je pourrais en faire? Merci, Jean-Pierre Guénaud.
Merci beaucoup, Jean-Pierre Guénaud. Ce hors-série du Monde, un amour de stylo est à découvrir dans les kiosques. Et on retient votre message, soyons fromage et dessert, tablette et stylo.
Clavier et stylo, sans vergogne et sans retenue.
Merci.
Vous écoutez RTL.